Un tango, une danse, un baiser, et un sourire.
Par les temps qui courent,
Marie-Richeuse. Ça y est, je suis 21.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Ces questions de guerre me hantent tellement, dit un jeune homme appuyé à l'arbre, mais il n'y a rien à faire, conclut-il. Le jeune homme a été embrigadé par ceux qui s'appellent l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda. Il a été embrigadé alors qu'il était enfant. Il a commis des crimes et dans ses yeux, comme dans ceux des personnes que vous avez rencontrées pour votre film Wrong Elements, le silence se fait parfois, y compris lorsqu'il vous parle. Et il vous parle beaucoup, Jonathan Little, celles et ceux qui sont revenus, qui refont les gestes, qui revoient les images et les gens, qui remettent leurs pas dans leurs anciennes traces. Le film commence sur de sublimes plans de nature. Elle reviendra, la nature, les insectes aussi et la lumière, comme si leur témoignage manquait pour finir de comprendre. Jonathan Little, le DVD de votre film Wrong Elements est d'ores et déjà disponible via le site du distributeur Blackout et à compter du 6 février pour tout le monde et sur toutes les autres plateformes. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Il est accompagné d'un livret avec beaucoup de documents, avec beaucoup de textes et il rejoint aussi certains articles que vous avez publiés sur le sujet car peut-être tout commence là ou tout commence un tout petit peu en amont. Jonathan Little, on parle de qui quand on parle de cette armée de libération du Seigneur ?
La LRA, comme on l'appelle en anglais, Lord's Resistance Army, c'est un très vieux groupe rebelle, peut-être un des plus vieux encore en activité en Afrique. C'est une rébellion qui a commencé à la fin des années 80 en Ouganda, peu de temps après la prise du pouvoir, elle-même assez violente, du président Museveni, qui est toujours aujourd'hui en exercice comme président de l'Ouganda. Et c'est une rébellion qui visait, en tout cas à l'origine, à renverser Museveni et à rendre le pouvoir au peuple du Nord, notamment le peuple Adachli qui forme le gros des troupes de la LRA. Ce qui a compliqué un peu les choses, c'est que la LRA était une rébellion aussi mystique, était officiellement dirigée par Joseph Kony, qui est son fondeur et son leader. Mais Kony lui-même, en fait, disait qu'il était dirigé par des esprits, qu'il le possédait et qui donnait des ordres au mouvement à travers lui. Donc on a une espèce de syncrétisme religieux-politique qui très vite, dès le début des années 90, va basculer dans une sorte de violence paroxystique. Et devant l'effondrement de sa base de soutien, va commencer à reprendre ses forces en recrutant de force, et notamment en recrutant de jeunes adolescents. Et donc ça devient assez rapidement un mouvement composé presque entièrement d'enfants soldats, qui sont pris de moyenne, on va dire, c'était entre 12 et 14 ans, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Les enfants subissaient un embrigadement par la violence, mais aussi par la persuasion et l'indoctrination politique et spirituelle de la part de Kony, pour devenir, à leur tour, des vrais LRA, qui répéteraient le même processus avec les générations suivantes. Il y a eu beaucoup de péripéties politiques et militaires, on ne va pas rentrer dans les détails. Toujours est-il qu'ils ont été chassés d'Ouganda et on continue à sévir au Congo. C'est là que je les ai vus pour la première fois en 2010, quand j'ai fait un premier reportage, en effet, pour Le Monde sur le sujet. Puis en 2011, quand je suis parti avec l'armée ougandaise qui menait des opérations dans la jungle pour les traquer. Donc j'étais un peu embedded avec une photographe dont les photos illustrent ce livre, avec une unité de l'armée ougandaise. Et le film est né un peu de là. L'armée ougandaise emploie beaucoup d'anciens LRA dans ses troupes pour chasser leurs anciens petits copains. Donc c'était la première fois où j'ai eu l'occasion de discuter en détail, en profondeur avec des anciens LRA. Et je trouvais leur façon de parler de leur expérience et de ce qui s'était passé absolument passionnante. Et c'est ça que j'ai voulu creuser plus profondément avec ce film.
Quand vous dites passionnante, c'est parce qu'elle était, d'une certaine manière, comme vous l'écrivez, assez clairvoyante. Vous écrivez, Jonathan Little, dans ses textes, que Une des spécificités de cette LRA, c'est de ne pas droguer ni de ne pas saouler les enfants et les adolescents qu'elle embrigade, et de passer, vous le disiez, par un embrigadement plus politique, plus spirituel. Ça fait que vous diriez avoir en face de vous des interlocuteurs clairs sur ce qu'ils ont vécu?
Tout à fait. C'est beaucoup plus comme si on parlait à... comme dans le film de Ritipan, où il parle à des dans S21, où il parle à des gardiens de prison Khmer Rouge, qui, pareil, ont été pris très jeunes et ont été soumis à un embrigadement politique, mais sont très lucides sur ce qu'ils pensaient à l'époque, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils pensent maintenant, ce qu'ils croient maintenant. Et là, on est à peu près, toute proportion gardée, évidemment, devant un phénomène comparable, qui est très différent, par exemple, des enfants soldats qu'on peut rencontrer au Congo, ou autrefois au Sierra Leone, ou au Liberia, qui eux étaient fracassés du matin au soir, et du coup gardent des traces mnémoniques de leur expérience complètement déformées, complètement fantasmées, complètement très difficiles à reconstruire. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Là, on avait un cas assez, je vais me dire, chimiquement pur, qui permettait vraiment de regarder les processus par lesquels un enfant qui est au départ une victime, puisqu'il est kidnappé, violemment battu, torturé, terrorisé, se transforme en bourreau et commence à torturer, battre et tuer à son tour.
C'est cette transformation-là que vous vouliez regarder de près, puisque vous parlez de chimie, davantage que les processus de capture et d'embrigadement. C'est ce passage de victime à celui qui fait la violence.
Voilà, oui. C'est-à-dire que, bon, j'ai beaucoup travaillé sur les processus des bourreaux là, dans différents aspects de mon travail. Mais c'est vrai qu'avant, je travaillais sur des bourreaux comme les nazis, dont on peut dire que ce sont des bourreaux, parce que ce sont des gens qui, a priori, en tout cas les pires, étaient des volontaires. C'est vrai que déjà, quand on commence à parler de conscrits, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus gris, de beaucoup plus flou. Un soldat de la Wehrmacht conscrit, qui ensuite se retrouve en train de commettre des atrocités en Ukraine, n'a pas du tout le même statut, du point de vue ni psychologique, ni éthique, ni moral, qu'un volontaire de la SS, par exemple. Et donc là, c'est encore pousser les choses plus loin sur cette réversibilité entre la victime et le bourreau. Et c'est vraiment ça qui m'intéressait de creuser. Mais je trouve que ça a des extensions beaucoup plus larges aussi, puisqu'effectivement, ça parle beaucoup de ce qu'est la conscription en général, même si chez nous, on le fait plus maintenant, mais jusqu'à 20 ans, on le faisait encore en France. Pendant 2 siècles, en Europe, c'était comme ça qu'on faisait nos guerres. On prenait des jeunes gens chez eux de force et on les obligeait à aller tuer des gens ou se faire tuer. Et on leur demandait pas leur avis s'ils étaient d'accord ou pas. On les prenait un peu plus tard, à 18 ans. Là, la LRA les prend plus jeunes.
C'est ce que j'allais dire. On a l'impression que le décalage avec une plus prime jeunesse, voire quand même une certaine frontière avec l'enfance, vous permet simplement de rendre plus radical quelque chose que vous observez ailleurs, Jonathan Little. Comme si ce que vous aviez à dire avec Wrong Elements, c'est évidemment observer ce cas particulier en Ouganda, mais en même temps nous proposer éventuellement des pistes de réflexion pour d'autres fabriques de la violence, d'autre part dans le monde, d'autres manières.
Oui, tout à fait. D'autant plus que, comme je le dis dans le texte qui est dans ce livre, là, le livre DVD, la question de l'enfance elle-même est une question complètement normative. C'est-à-dire que ici, on a un consensus social européen, pays développé, industrialisé, blanc, que l'âge adulte commence à 18 ans. Mais c'est un chiffre complètement arbitraire. C'est le résultat de générations et de générations de décisions politiques, de travaux sociaux, de travaux médicaux. On dit, bon, bah, 18 ans, t'es plus un enfant, t'es un adulte. Mais la fin réelle de l'enfance, on le sait, de toute façon, c'est quelque chose de beaucoup plus flou, c'est pour ça qu'on parle d'adolescence, parce qu'il y a tout ce passage où on est encore enfant, mais on est déjà adulte en même temps, c'est très curieux. Et selon les sociétés et les cultures, les lignes ne sont pas du tout tracées de la même façon. Un jeune paysan ougandais, à 13 ans, il peut se marier, il fonde une famille, avec une fille qui aura le même âge. À partir du moment où la fille a ses règles, elle est considérée comme en âge de se marier et de faire des enfants. Donc, ce que nous considérons d'un point de vue juridique et normatif comme étant des enfants ne sont pas forcément considérés comme tels dans la culture où l'arrêt est active. Et eux-mêmes ne se considèrent peut-être forcément comme tels. Enfin, oui et non, mais c'est complexe en tout cas. C'est pas une question simple. Il n'y a pas les enfants et les adultes.
On dirait que ça vous permet d'aller encore plus loin dans la question de la du brouillage d'une frontière trop simple entre le bien et le mal, comme si c'était vraiment quelque chose que vous vouliez en permanence complexifier. C'est pas aussi simple que ça, semblez-vous dire tout le temps.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, même le terme bien et mal sont des termes que j'aime pas du tout, parce que, de nouveau, ce sont des termes normatifs, c'est des termes...
voire moraux.
Oui, c'est un peu la même chose, quelque part. C'est des termes qu'on applique post facto, on dit ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est un jugement. C'est pas une description, c'est pas une analyse, c'est... Alors après, ça peut venir soit de la tradition religieuse judéo-chrétienne, ça peut venir de la tradition juridique, ça vient d'où on veut, mais... Ce ne sont pas des mots que je trouve très utiles pour définir des phénomènes. Parce qu'évidemment, ce qui est mal pour l'un est bien pour l'autre. On n'a qu'à le voir avec nos actuels terroristes islamistes. Eux, ils pensent qu'ils font le bien. Et ils font le bien au nom de Dieu. Et nous, on pense que ce qu'ils font, c'est le mal. Donc, ce sont des mots qui n'ont vraiment pas une très grande utilité pour comprendre les phénomènes.
Et vous leur préférez quel mot ?
Bah, des mots plus techniques, des mots plus concrets, les mots de violence politique, de violence de masse, de terreur comme outil politique. Enfin, s'il faut, pour moi, ce qui est important, c'est d'analyser les choses, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Juste plaquer des étiquettes sur les gens n'est pas très utile.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Alors vous avez reconnu la direction, puisque c'est celle à laquelle vous teniez manifestement, Jonathan Little, Gardiner, qui dirige La Passion selon Saint Jean, cette musique et d'autres, mais celle-ci très présente dans votre film Wrong Elements, et on l'entend ici aussi pour parler de ce premier moment d'ouverture où vous filmez la nature, qui sont des plans absolument sublimes. À d'autres moments, vous filmez les insectes ou encore de la lumière qui passe dans des toits de cases. Qu'est-ce que vous cherchez, avec votre œil de cinéaste, Jonathan Little, dans ces images-là ?
Disons que tout phénomène politique, social, militaire, ce qu'on veut, s'inscrit quand même dans un réel qui est vécu par les gens et qui passe beaucoup par le paysage dans lequel ils vivent. Et d'autant plus dans des cultures comme les cultures du nord de l'Ouganda où le rapport à l'environnement est extrêmement proche, extrêmement présent. Il n'est pas du tout aussi distancié qu'il l'est chez nous. Les gens vivent en contact constant avec la nature. La rébellion elle-même vit dans la nature, vit dans le bush. Donc,
qu'est-ce qu'on appelle le bush, qui est ce mot qui revient en permanence, dont on imagine que c'est une sorte de jungle?
En France, on dirait la brousse, tout simplement. C'est un terme un peu générique, parce qu'en fait, il n'y a pas de jungle dans le nord de l'Ouganda, c'est la savane. En fait, ça j'ai renoncé à l'expliquer didactiquement le film, parce que c'est un peu lourd, mais les Acholi ont une sorte de cosmologie, une vision métaphysique du monde. Le monde est partagé entre ce qu'ils appellent Gang et Loom. Le Gang, c'est le mot veut dire foyer, mais c'est en fait, ça désigne toutes les terres qui sont prises par l'homme, que l'homme travaille, que l'homme modifie, que l'homme... Donc c'est les terres de culture, c'est les routes, par extension ça peut même être les villes, c'est évidemment les cases. Et le Loom, qui veut dire herbe, c'est tout ce qui est sauvage. Et le monde est perçu comme une lutte constante entre le Gang et le Loom, parce qu'évidemment, en Afrique, si tu ne débroussailles pas la terre battue devant ta case, 6 mois plus tard, l'herbe, elle est au pied de ta case. Il faut travailler tout le temps, pour maintenir cette ligne entre le Loom et le Gang. Et les Acholi en particulier ont très peur du Loom. Donc toute la vie humaine se passe dans le Gang. Les Acholi ne vont dans le Loom que pour des raisons très 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 précises, comme chasser pour les hommes, ou cueillir des herbes médicinales pour les femmes, ou certaines cérémonies religieuses. Mais sinon, ils évitent absolument. Or, la LRA, elle vit dans le Loom. Donc, du coup, elle fait partie de tout ce monde sauvage qui inclut les esprits, qui inclut les animaux, qui inclut tout ce qui est dangereux pour l'homme. Il passe de l'autre côté. Et évidemment, je trouvais cette vision-là vraiment intéressante, parce que là, on rentre vraiment dans comment les gens eux-mêmes conçoivent les choses. Par exemple, une chose que j'ai appris en cours de route, c'est qu'il y a un tabou très fort chez les Acholi sur les rapports sexuels dans le bush. Ce qui n'est pas le cas de toutes les cultures africaines. Beaucoup de cultures africaines, au contraire, vont dans la forêt ou vont dans l'herbe pour avoir leur rapport sexuel. Mais dans la culture Acholi, c'est complètement interdit. On ne peut avoir des rapports sexuels que dans le gang, dans les maisons, en gros. Et donc, la LRA vivant dans le bush, quand les hommes prennent de force les jeunes femmes qu'ils ont capturées pour en faire leurs femmes, avoir des rapports sexuels forcés avec eux, et leur faire des enfants, sont en train de violer un tabou, qui est le tabou de la sexualité dans le Loom. Et donc les enfants qui sont nés de ces rapports forcés ne sont pas seulement des enfants de viol, mais en plus sont des enfants
conçus dans cet espace-là.
Dans une violation de tabou. Et donc sont d'autant plus dangereux pour les autres gens quand ils reviennent. Ils sont porteurs de ce que les Acholi appellent du chen, qui est une espèce d'émanation malfaisante, contaminante, dont on parle un peu dans le film. Donc ils sont très très dangereux. Donc il y a tous ces rapports-là. Évidemment, là, cinématographiquement, moi j'ai voulu inscrire tout le film dans ces paysages. Vous avez parlé des paysages de campagne, mais en fait, si vous regardez vraiment, il y a un va-et-vient entre les paysages urbains et les paysages... de campagne. En fait, j'ai mis les deux. Il y a des séquences de plans des villes, avec les voitures, les motos, les télévisions, les églises, tout ce qui fait la vie urbaine dans le nord de l'Ouganda, et des séquences de plans de nature, de campagne, d'insectes, effectivement, parce que les oiseaux, c'est un peu compliqué à filmer. Donc, je me rabatte sur les insectes, mais je voulais montrer aussi tout ce qui est dans cet environnement dans lequel les gens vivent, et les cultures, et ainsi de suite.
Si j'ai parlé de ces plans-là, c'est parce qu'il me semble qu'il y avait une charge dans le regard qui était différente. Alors peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression, et peut-être que c'est aussi dû à la musique qui les accompagne peut-être un petit peu plus souvent, mais j'avais la sensation que vous les regardiez, que vous les filmiez avec peut-être justement ce penchant, cette interrogation vers le mystique, vers ce découpage cosmogonique différent.
Si vous l'avez vu comme ça, c'est peut-être que c'est comme ça, mais en tout cas, ce n'était pas ma conception.
Quand vous dites avoir appris au fur et à mesure ces découpages-là, ces croyances, ces manières d'organiser la vie et le vivant, ça veut dire qu'au milieu des témoignages des violences, au milieu des témoignages des crimes perpétués ou des témoignages d'embrigadement, il y avait tout ce récit qui se faisait aussi, qui disait on doit aussi vous raconter tout le reste ?
Non, non, ça marche pas vraiment comme ça. Les gens, que ce soit ici ou là-bas, ont rarement en fait une auto-réflexion anthropologique par rapport à leur propre culture. Ils la vivent tout simplement parce qu'ils sont nés avec. Généralement, c'est des gens du dehors qui viennent et qui analysent. Et donc, on a aussi beaucoup travaillé pendant, avant et pendant le tournage avec des anthropologues occidentaux basés là-bas, qui ont passé des années. Par exemple, tout ce que je raconte sur la sexualité, c'est une amie qui a travaillé avec moi sur le film, Holly Porter, qui est une professeur à London School of Economics et qui a fait tout un travail sur la sexualité à Choli. Elle est en train de publier son premier livre là-dessus, basé sur des travaux plus anciens menés par un anthropologue qui était lui-même à Choli, qui s'appelle Okot Pabetak, qui est le premier à avoir écrit ouvertement sur le thème, qui était à la fois à Choli mais anthropologue, donc lui avait ce regard extérieur sur sa culture. Et donc c'était une espèce de va-et-vient entre des choses que des gens comme Holly m'expliqueraient et puis ensuite tester ces hypothèses avec les différents intervenants dans le film, ce qu'on appelle couramment les personnages du film. Donc voilà, c'était une espèce de va-et-vient constant. Quoi. La réflexion nourrit le film nourrit la réflexion d'une manière dynamique. Mais c'est pas comme si Jeffrey pouvait s'asseoir et m'expliquer les fondements de la sexualité actually. De toute façon, ils n'en parlent pas de la sexualité, donc... Donc tout ça, c'est des questions un peu taboues, on va dire. Ou si, ils en parlent un peu, mais pas beaucoup.
La plupart des criminels aiment bien parler. Je pense que parler le fait du bien aussi, parce que malgré tout, ce qu'ils ont commis, même, ça reste quand même quelque chose d'horrible en eux. 20 ans plus tard, ça reste malgré tout un poids. Et la seule manière de sortir de crime, c'est de dire « j'étais avec la loi ». La loi, à l'époque, elle n'est peut-être pas bonne, mais j'étais du côté de la loi, du côté des règles. Et ça, c'est très compliqué pour moi, personnellement. Où est l'homme pendant que vous commettez l'acte? Où est la conscience, par exemple? Et ça, c'est très compliqué. Évidemment, moi, quand d'autres disent quelque chose, je prends. Parce que après je vais vérifier. L'important, c'est qu'il parle d'abord. Puis après, vous allez trouver d'autres témoignages. Moi, je prends toujours un fait, je le croise avec trois autres témoins, par exemple. Mais les bourreaux, effectivement, ils ont plus de facilité à parler. Malheureusement, nous, les victimes, on est un peu en attente de cette parole-là. Faut avoir une position éthique et morale très affirmée avant d'y aller. Il faut vraiment enlever le moindre idée que ça vous excite, ouais. Que vous allez avoir un scoop.
Ça vous fascine, quoi.
La mort, le mal fascine toujours. Donc il faut avoir une position très ferme avec ça. Et on peut enfin engager le tournage.
On entend la voix du réalisateur Ritipan, Jonathan Little, qui dit, paradoxalement, les bourreaux parlent et parlent facilement, voire ils ont plaisir à parler, ça leur fait du bien, dit-il. Vous, lorsque vous rencontrez ceux que vous appelez en effet les personnages, est-ce que vous remarquez que cette facilité de parole, elle est aussi effective?
Écoutez, c'est une question extrêmement complexe. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Ritipan, mais je trouve curieux justement qu'ils disent que c'est les bourreaux qui parlent et les victimes qui ne parlent pas, parce que historiquement ça a plutôt été le contraire. On pense notamment à toute la séquence post-Seconde Guerre mondiale, où les bourreaux se taisaient et les victimes parlaient, notamment dans les procès, pour des raisons assez évidentes. C'est des choses dont j'avais parlé il y a une dizaine d'années, Les bienveillantes étaient sorties. Je citais souvent une phrase de Georges Bataille, qui avait écrit, je crois, en 1946, « Les bourreaux ne parlent pas », donc il dit le contraire de ce que dit Ritipan, ou alors s'ils parlent, ils parlent avec la langue de l'État. Et là, on rejoint par contre ce que disait Ritipan, c'est-à-dire que le bourreau est souvent, quand il parle, quand il veut bien parler, dans une logique de justification.
Du rapport à la loi et la règle.
Et d'essayer de normaliser ce qu'il a fait. Il n'est pas dans un rapport à soi, il est dans un rapport à l'extérieur, on va dire. Alors que la victime, évidemment, ayant souffert des choses dans son corps, quand elle est capable de parler, va être beaucoup plus dans un rapport réel à soi. Et donc tout l'enjeu, quand on veut faire un documentaire où on parle des bourreaux, bon, le premier qui a mis en place cette technique de faire revivre des choses, à ma connaissance, c'est Claude Lanzmann dans Shoah, de remettre les gens en situation, sur les endroits où en train d'accomplir des gestes qui s'accomplissaient à l'époque. Mais Lanzmann ne s'intéressait pas du tout aux bourreaux. Il les a filmés pour avoir des témoignages factuels, mais il ne s'intéressait pas à eux. Il les détestait, il voulait pas rentrer dans leur logique du tout, il voulait juste des faits. Donc il a vraiment fallu attendre justement Henri Pan et d'autres cinéastes qui sont venus, comme plus récemment Joshua Oppenheimer dans Act of Killing, pour là vraiment essayer de s'intéresser au cinéma, à la parole des bourreaux, et comment on l'a fait sortir, comment on la travaille, avec tous les risques que ça comporte, évidemment, et ça, c'est selon Henri Tipan, les rapports de séduction, les rapports
de fascination,
etc. Et ça, c'est évidemment des questions très, très complexes. Donc, mon film, il s'inscrit dans la lignée de ces films-là. J'ai évidemment étudié assez attentivement leur travail, leur façon de procéder, pour en tirer des leçons. Essayer de faire les choses le plus correctement possible. Après, moi, c'est encore une autre version de la chose, puisqu'encore une fois, mes bourreaux dans mon film sont aussi des victimes. Donc, eux, ils ont un statut. Les bourreaux de Joshua dans Act of Killing, qui sont des membres d'Escadron de la Mort ayant commis le génocide en Indonésie en 64, étaient d'anciens criminels. Donc, eux, je veux dire, c'est juste des crapules qui sont devenus des assassins de masse. C'est pas... On n'est pas du tout dans le même type de personnes que ceux qui sont dans Wrong Elements.
Et d'ailleurs, ils n'ont pas du tout la même prise de parole que les jeunes gens qui témoignent dans Wrong Elements. C'est-à-dire que si on a dans l'esprit ou dans les yeux les images des personnes qui témoignent dans les films de Joshua Oppenheimer, il y a une façon d'être encore très en empathie presque avec les crimes qu'ils ont commis, qui ne rejoint pas du tout la parole que vous enregistrez vous. C'est-à-dire que les jeunes gens qui témoignent dans Wrong Elements, eux aussi ont une forme de rapport à ce qui s'est passé, qui est plus complexe, qui est plus nuancé, qui est plus difficile à classer clairement. Alors comment les avez-vous convaincus? Qu'est-ce qui s'est joué pour eux dans le fait de raconter? Est-ce que la question de la vérité avait un sens? Est-ce que la question de témoigner avait un sens?
Mais je vais faire une parenthèse avant de répondre à votre question pour parler de juste une remarque sur le film de Joshua. C'est qu'une des choses qui rend les choses extrêmement complexes, c'est que chaque cas d'étude est précisément un cas d'étude unique et très particulier, et donc c'est toujours très difficile de généraliser. Moi, j'ai discuté de ça avec Oppenheimer, après avoir vu son film, et une des particularités des Indonésiens, c'est que c'est le seul génocide du XXe siècle qui a réussi. Ce génocide où les génocidaires ont gagné. Ont pris le pouvoir, l'ont gardé.
Et sont encore là.
Ils sont encore là aujourd'hui.
En toute impunité.
Tous les autres, que ce soit les Rwandais, les Ottomans avec le génocide des Arméniens, que ce soit les nazis évidemment, leur régime s'est effondré et a perdu. Et donc les anciens bourreaux se retrouvent en position d'être jugés, ou en tout cas d'une position assez inconfortable. Alors que les Indonésiens, évidemment, ils ont gagné. Donc eux, ils peuvent être très bien, ils peuvent être très fiers de leur truc. Une des choses que j'avais dit à Joshua, d'ailleurs, c'est ton film, en fait, me donne l'idée de ce qu'auraient pu être des nazis en 1960 ou 70 s'ils avaient gagné la guerre. Ils auraient parlé comme ça. Ouais, c'était vraiment dur ce qu'on a fait en Pologne, qu'est-ce qu'on en a chié, on a souffert, c'était horrible, mais bon, on a fait le travail qu'on devait faire et c'était bien. Voilà, on aurait eu des réunions d'anciens combattants nazis qui auraient célébré les 30 ans d'Auschwitz en buvant des coups et des toasts au Führer et tout ça. Exactement comme on voit avec les personnages indonésiens d'Oppenheimer. Donc évidemment, ici, on est dans une situation complètement différente. Une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est que moi, j'arrive pas comme ça, comme une fleur, dans un truc complètement flou. La guerre, elle s'est à peu près achevée en Ouganda, même en 2008. Il y a eu un travail absolument colossal à partir de la fin des années 90, au niveau social, au niveau politique, avec les religieux, de réintégration, de démobilisation et de réintégration des enfants soldats de la LRA. Donc depuis le début, on essaie de les faire sortir de la LRA, de les ramener dans la société, et de les faire vivre dans la société. Donc, on parle, moi, les gens que j'ai rencontrés là en 2014, 2015, pour faire ce film sont déjà des gens qui vivent depuis des années dans leur société, qui sont rentrés à la maison, qui ont été acceptés par leur communauté.
Avec... Pour certains qui sont même passés par des centres qu'on dit de
voilà,
réhabilitation.
Tous sont à peu près passés par des centres, ça faisait partie du processus, mais après ils rentrent chez eux, donc ils sont inscrits dans leur société. Donc moi, en arrivant du dehors, pour leur faire parler, revenir sur toutes ces horreurs, je dois prendre en compte tout ce processus-là. Jeffrey, ça faisait 10 ans qu'il était rentré à la maison quand je l'ai rencontré. Il vivait sa vie, voilà, il fait des études secondaires, il était mototaxi, il avait sa famille. Et donc, il y a eu, dans les processus de réintégration, il y a eu tout un ensemble de cérémonies traditionnelles, un peu fabriquées par les anthropologues, les NGO, mais en se basant sur des coutumes, en utilisant les chefs coutumiers, on a relooké, si vous voulez, des anciennes cérémonies précoloniales pour essayer d'avoir des actes sociaux de grande envergure, où on prendrait une centaine de types revenus de la Larée, on ferait un grand pardon devant tout le clan, avec le chef du clan et tout ça. Donc il y a tous ces actes-là, et ensuite, l'idée un peu, c'est qu'on n'en parlait plus, quoi. On restait à la maison, et on vivait sa vie normale, et on ne parlait plus du passé. C'était une espèce d'oubli volontaire de part et d'autre. Et donc, quand un blanc, il arrive du dehors pour leur faire parler, que ce soit un anthropologue, un cinéaste, un journaliste, forcément, on est confronté à un éventail de réactions. Il y a un phénomène, par exemple, qui est assez frappant, mais que j'ai vraiment travaillé pour éviter, qui est le phénomène du témoin professionnel. Donc, il y a des anciens LRA qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient se faire du fric avec leur témoignage. Et à très juste titre, hein, je ne les condamne absolument pas pour ça, c'est très bien. Mais du coup, qui ont été interviewés des dizaines de fois par des journalistes et des cinéastes et des chercheurs, et donc leur histoire est de plus en plus lisse, de plus en plus rodée, puisqu'ils l'ont répété plein de fois. Et donc ça perd évidemment tout intérêt. Et en plus, ils parlent pour de l'argent, donc... Je suis tombé sur une ou deux personnes comme ça, je les ai filmées une fois, puis j'ai compris que ça n'avait aucun intérêt, j'ai pas continué à travailler avec eux. Donc moi, je voulais des gens qui étaient un peu vierges, qui n'avaient jamais parlé avant. C'est pas facile de les trouver, mais bon, voilà, on a cherché beaucoup. On a filmé beaucoup plus de gens que ceux qui sont dans le film à la fin, parce qu'évidemment, ça marchait pas toujours. Il y a des gens qui ne parlaient pas, ou qui parlaient pas beaucoup, ou qui disaient pas des choses intéressantes, ou... Donc c'était tout un processus très long et on est allé le plus loin avec ceux qui étaient prêts à aller le plus loin, qui avaient leur raison.
Et pour quelle raison étaient-ils prêts justement à aller plus loin ? Alors vous dites qu'ils avaient leur raison, j'imagine extrêmement différente en fonction des êtres que vous avez entendus.
Tout à fait.
Mais par exemple, parce que si elles étaient mises à jour, c'est-à-dire si les personnes avaient aussi envie
après,
de s'ouvrir à vous de les
raisons. Après c'est des hypothèses, Jeffrey, d'après ce qu'on voit dans le film, on peut déduire, même si je ne l'ai jamais formulé explicitement avec lui, qui portait effectivement une culpabilité assez monstrueuse, et qui s'est rendu compte, consciemment ou inconsciemment, que faire ce film, ce serait une façon de travailler ça et de dépasser ça. La cérémonie de pardon qu'il a fait, la scène qu'on a placée à la fin du film, avec cette dame dont les enfants avaient été tués dans un massacre où lui avait participé, je sais que c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Il voulait venir voir cette dame... pour lui demander pardon, parce que c'est une relation de famille de sa mère.
Et le film agit quoi comme médiation d'une certaine manière
ouais,
ou accélérateur que, concrétisation.
Il avait peur, donc d'un côté je le poussais, mais je voulais pas le pousser trop fort non plus, parce qu'évidemment il faut toujours discuter ces choses-là. J'ai mis à sa disposition les moyens matériels, parce que quand on demande pardon, il faut amener de la farine, du sucre, du savon, enfin des cadeaux, quoi. Ça coûte cher. Donc j'ai pu fournir ça. Et donc, lui s'est servi du film pour avancer sur des choses sur lesquelles, visiblement, il voulait déjà avancer. De sa propre volonté, mais qui, ça lui a servi, ouais, d'accélérateur. D'autres, ça peut être, bah, en Mike, c'était beaucoup plus bassement matériel. Mike, il voulait de l'argent. Et c'est tout, je crois. Mais je l'ai gardé parce qu'il faisait un très bon, contrepoint à Jeffrey. Il servait enfin, comme faire valoir, il était absolument magnifique, complètement bouffon, grotesque. Et donc, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que moi, je trouvais super dans ce duo avec Jeffrey, un peu dans le Quichotte et à Sancho Panza. Naïti, je pense qu'elle s'est découverte, notamment lors du voyage au Soudan, ben, elle le dit très explicitement, une sorte de... Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'était pas juste une sous-merde et qu'elle avait des choses à dire qui étaient importantes pour d'autres et que du coup, elle pouvait avoir une valeur comme témoin. Que ça lui...
Elle dit, je prends conscience que je ne suis pas si inutile que
ouais,
je croyais.
Exactement. Et maintenant, sa vie a vraiment complètement changé. Elle travaille pour une NGO, elle travaille dans des camps avec des réfugiés soudanais. Donc tout à coup, elle a acquis une valeur sociale qu'elle ne savait pas. Enfin, Naïti est quelqu'un de vraiment très très traumatisé, très vraiment le symptôme de la femme violée, abusée dans la petite enfance, donc qui reproduit les abus perpétuellement parce qu'elle n'arrête pas de se mettre avec des mecs, de se mettre avec des types très abusifs, ce qui est assez typique des femmes abusées comme ça dans leur jeunesse. Là, tout à coup, elle s'est rendue compte que non, elle n'est pas une sous-merde, qu'elle a une valeur pour d'autres aussi. Et qu'elle peut compter pour quelque chose. Et du coup, elle s'est vraiment découverte un rôle grâce au film.
Et en regard, quand on interroge leur motivation à prendre leur parole, ou à prendre la parole sur ce qu'ils ont vécu, si on interroge les vôtres ?
Les miennes, c'est-à-dire ?
De motivation.
Bon, je ne serais pas plus capable de les formuler que ne le serait. Je fais ce que... Voilà, ce que j'ai envie de faire.
Ce qui s'impose.
Oui. Après, pourquoi ? C'est pas des questions que je me pose vraiment.
Il y a une scène, souvent, je le montre aux jeunes cinéastes, dans S21, quand un des gardiens refaisait les gestes. Il y en a qui disent qu'on rejoue. Non, il ne rejoue pas. Le cinéma nous a permis de voir comment le corps garde aussi une certaine mémoire, quoi. Donc, cette mémoire-là, c'est... Vous pouvez difficilement faire avec la littérature, vous pouvez difficilement faire avec le son, mais avec l'image, oui. Et là, on va s'approcher de quelque chose qui donne une ampleur à l'image, qui est intéressant. Mais en même temps, il faut faire attention, parce que ce type qui va revivre ses gestes, à un certain moment, la caméra le suivre. Et il y a un moment où vous devez vous poser une question de quel côté vous êtes. À force de suivre le bourreau, vous devenez presque l'image du bourreau. À un certain moment, quand le gardien entre dans la chambre, dans la pièce de la prison, la caméra reste à l'extérieur. On a arrêté. Si on fait trois pas encore en suivant les gardiens, on aurait marché sur le prisonnier parce qu'il est en train de, dans ses mimes, dans ses gestes, il est en train de donner à manger, de frapper les prisonniers imaginaires dans sa tête, quoi. Mais moi, je vois les prisonniers couchés par terre. Ça, évidemment, si vous êtes excité par lui, vous êtes fasciné par lui, vous serez allé avec lui dans la pièce. Là, vous basculez le côté de bourreau. Moi, je crois que chaque criminel a différentes facettes, différentes manières. Il y a des criminels bruts, mais aussi il y a des intellectuels criminels. Évidemment, le plus dangereux, c'est ceux qui savaient lire et écrire, lire des bouquins, aimer Picasso ou... Écoutez Werner, c'est celui-là qui est le plus compliqué à gérer, parce que il peut vous gérer, vous aussi.
C'est encore la voix de Riti Pan, Jonathan Little, par rapport à la mémoire du corps. Vous décidez aussi, puisque vous le disiez, de vous inscrire dans cette lignée de films et de refaire faire certains des gestes. Alors on le voit, des moments d'embrigadement, de réveil en pleine nuit avec la lampe torche, des moments de marche, des moments aussi où vous les faites revenir dans des camps où les cases ont été brûlés. Ça s'organise comment concrètement pendant le tournage ?
C'est-à-dire qu'à chaque scène, il faut réfléchir à la logique de la scène, de ce qu'on cherche dans cette scène. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que dit Riti Pan dans le passage que vous venez de passer. Et j'ai d'ailleurs appris beaucoup en regardant S21, et notamment la scène dont il parlait. Mais déjà, on avait ça, encore une fois, dans Shoah, avec par exemple la très célèbre scène avec Bomba, le coiffeur de Treblinka, qui n'arrivait pas à parler. Et finalement, Lanzmann le met dans un salon de coiffure à Tel Aviv, et lui met des ciseaux dans les mains, et lui fait couper les cheveux d'un homme, pour raconter comment il coupait les cheveux des femmes à l'entrée de la chambre à gaz à Treblinka. Et tout à coup, avec ce geste d'avoir des ciseaux dans la main et de couper des cheveux, il y a tout qui sort d'un coup. C'est vraiment extrêmement... assez hallucinant comme passage. Donc, moi, j'ai évidemment voulu utiliser cette méthode, parce que je suis complètement d'accord. Il y a une mémoire des corps, il y a une mémoire des gestes. Alors, des fois, Bon, c'est une scène, par exemple celle au tout début du film où effectivement il rejoue un enlèvement, ben je leur ai dit, tout simplement, divisez-vous en deux groupes, un groupe attaquant et un groupe victime, et montrez-moi comment ça se passait à l'époque. Et après, et je leur ai filé des bâtons pour les calaches. Ils m'ont demandé pourquoi tu ne donnes pas des vrais calaches. Je dis, ben non, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas que vous faisiez... Parce qu'ils devaient avoir un imaginaire de cinéma de fiction, donc ils pensaient que je voulais... Je dis, c'est pas, on va pas faire du Hollywood avec des uniformes, juste que vous montriez les gestes. C'est ça que je veux voir. Et donc, ils l'ont fait, et effectivement, on voit tout à coup, chaque individu dans cette scène réagit différemment. Certains sont complètement dedans, replongent, d'autres gardent plus de distance et même rigolent un peu. Enfin, ça dépend des individus. Mais tout au long du film, on a essayé de poser des dispositifs qui permettraient en tout cas des gestes. Par exemple, il y a un moment étonnant quand on était au Soudan. Bon, toute la séquence de Soudan est complètement basée sur cette idée-là. Quand Jeffrey monte dans l'arbre, moi je ne lui ai pas demandé de monter dans l'arbre, c'est de monter tout seul, parce que c'est ce qu'il faisait à l'époque, pour faire le guetteur. Et tout à coup, il est où Jeffrey? Oh merde, il est en haut de l'arbre, donc comment est-ce qu'on le filme? Ok. Et puis à un moment, il trouve une calache rouillée, une calache détruite. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce moment, mais à un moment, il est en train de rigoler sur cette calache détruite avec son copain Mike. Et puis tout à coup, à un moment, il épaule la calache pour braquer Mike. Et on voit tous les muscles du corps qui se transforment instantanément, quoi. C'est tout à coup, clac. Et puis il rigole, et puis il repose la calache, et puis ça continue. Et donc oui, ça permet des percées qui sont parfois beaucoup plus difficiles juste par la parole.
Et outre justement ces percées-là ou les procédés de révélation, de déclenchement de témoignages de Nathan Little, c'est aussi une manière, on a la sensation, de montrer à l'image combien la violence s'inscrit dans les corps et quelle est sa persistance, y compris quand, par exemple, le processus politique a été de réintégrer ces jeunes gens dans les sociétés, de faire les cérémonies dont vous parliez tout à l'heure, d'organiser des pardons, de les réhabiliter, voire de ne plus du tout parler de ça. En filmant ces gestes reproduits, vous dites que la violence ne disparaît pas, qu'elle est dans les tissus, qu'elle est dans les muscles.
Bah, ça, c'est un peu une lapalissade. Je veux dire, la violence est question de corps. Bon, on peut dire aussi, il y a une violence psychologique, c'est vrai, mais en général, la violence, en tout cas politique et militaire, c'est une question de corps. C'est des corps qui font la violence, c'est des corps qui souffrent.
Non, mais ce que ça dit, c'est que ça va au-delà du faire, c'est que ça persiste, c'est que ça reste.
Ah, bah, bien sûr, oui, n'importe qui, même un truc aussi basique, n'importe qui a appris à se battre, dans sa jeunesse ou qui s'est battu dans des rixes ou même dans des cours d'école, mais qui a un peu entraîné, qui a fait des exercices, que ce soit de la boxe, du judo, je sais pas quoi, va garder ça toute sa vie. Dans la moindre situation de tension, ses muscles vont automatiquement se remettre en mode coup de poing, en mode enfin c'est le niveau le plus basique de la violence, quoi. Et n'importe qui a tenu une arme, qui était surtout les gens qui ont été entraînés, ça, c'est des réflexes musculaires qui ne nous quittent jamais, jamais.
La palissade, je suis d'accord, mais en même temps, ça dit quelque chose d'un tout petit peu plus, moins la palissade, qui est que c'est la continuation de la violence quand elle est organisée politiquement. C'est-à-dire que ces êtres-là qui gardent la violence en eux, ils continuent de vivre, ils continuent de faire société. Ça veut dire que la violence continue à ce stade-là, à ce niveau-là, d'infiltrer la société.
Bah,
ils vont
vieillir,
ils vont rester là, ils vont organiser le futur.
Encore une fois, il suffit de revenir à nos sociétés et regarder les difficultés, par exemple, qu'ont les Américains à intégrer les vétérans d'Irak et d'Afghanistan, ou avant qu'ils avaient avec les vétérans du Vietnam. Et bon, on a fait des films et des livres et des livres, et des articles là-dessus. Un mec qui a été formé à tuer et ensuite qui a tué pendant quelques années, le ramener dans une société civile, lui demander d'être gentil et de faire ses courses et de s'occuper de ses gamins, c'est pas évident. Donc, c'est des processus très très complexes de sortir. Quand on a envoyé des gens dans des situations de violence, ensuite de leur demander d'en sortir, c'est pas comme un bouton sur lequel on appuie, on dit maintenant c'est fini. D'où tous les problèmes de drogue, de problèmes de troubles psychiques et mentaux, de suicides absolument taux de suicide absolument colossaux, et ainsi de suite. Et ça vaut à tous les niveaux. C'est pareil pour des policiers, c'est pareil pour n'importe quel acteur de violence dans n'importe quelle société.
C'est l'histoire d'un enfant soldat devenu bourreau. Dominique Ongwen, 40 ans environ, sa date de naissance est inconnue, doit répondre de crimes commis en Ouganda. Il était alors un commandant redouté de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. L'homme est accusé d'esclavage sexuel et de recrutement d'enfants soldats. Il aurait aussi orchestré des massacres. Des charges accablantes, mais lors d'une audience préliminaire en janvier, il refuse de reconnaître les faits.
La lecture de ces charges est une perte de temps. La plupart de ce que vous dites est faux, mais j'ai compris les charges retenues contre moi.
Dominique Ongwen a lui-même été une victime. Enlevé vers l'âge de 10 ans, il a été enrôlé de force dans les rangs de la LRA, connu pour ses méthodes sanguinaires. Repéré pour son courage au combat, ses qualités de tacticien et sa loyauté, il monte rapidement en grade et devient chef de guerre. Pour la procureure, cela ne doit pas entrer en ligne de compte, car le procès porte sur des crimes commis entre 2002 et 2005.
Nous poursuivons Dominique Ongwen seulement pour les crimes qu'il est soupçonné d'avoir commis en tant qu'adulte. C'est ainsi que nous allons instruire le dossier. L'avis des juges sur le fait que lui-même ait été enlevé lorsqu'il était enfant leur appartient.
Ce mardi, l'ancien chef de guerre a plaidé non coupable. Les audiences, elles, reprendront au mois de janvier.
C'est un sujet de France 24 consacré à la parution de Dominique Ongwen à la CPI. Jonathan Little, pendant le film, vous apprenez la reddition de cet ancien enfant soldat devenu en effet commandant et criminel de guerre dans la LRA. Et vous filmez ce moment-là. En entendant là le sujet consacré à Dominique Ongwen et au moment où il prend la parole, vous souriez.
Oui, sa voix. Je l'ai passé un peu de temps avec lui, donc oui, je reconnais bien sa voix.
C'est simplement là parce que j'étais étonné de vous voir sourire au moment où il prenait la parole.
Il a une voix très particulière.
Très particulière, et il n'y a pas que seulement sa voix qui est particulière, son regard, son attitude. Vous le filmez au moment où il se rend, où il est repris par l'armée. Comment ça s'est passé?
Point de vue du film, on a juste eu de la chance. On était là, il était prévu depuis des mois qu'on rejoigne l'armée ougandaise en Centrafrique à cette date-là, et il s'est rendu la veille de notre arrivée, donc c'est vraiment un coup de bol. Après, il se trouve que j'ai développé des très très bonnes relations avec le colonel ougandais qui commandait l'opération en Centrafrique. J'avais déjà des bonnes relations avec ses supérieurs en Ouganda, donc c'est ça qui petit à petit m'a permis d'avoir la permission d'accéder à Ongwen et de le filmer. Peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais du coup, oui, j'ai pu l'interviewer pendant une quarantaine de minutes le jour où il a été transféré à la CPI. Et ensuite, on m'a autorisé à filmer son transfert à la CPI, qui est un moment assez étonnant parce qu'ils n'ont pas voulu lui dire qu'il allait transférer à la CPI. Donc lui, il l'a appris au moment où on le filmait, quoi. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas rentrer en Ouganda et être amnistié comme tous les autres. Mais que, à la différence de tous ses petits camarades qui s'étaient rendus, parce que normalement la règle c'est quand on se rend, on est amnistié, ça c'est la loi ougandaise. Donc lui il s'attendait à être amnistié, et en fait non, on l'a envoyé à La Haye répondre des charges dont parlait la procureure.
Et d'ailleurs il dit, j'ai une question, pourquoi est-ce que ça s'applique à moi de cette manière-là? Et on lui répond, parce que tu es important Dominique, parce que tu es plus important que les autres.
Ouais, tout à fait. Mais je vais pas rentrer dans les détails ni du procès, ni de la stratégie de défense d'Ongwen et de ses avocats, parce qu'il faudrait une émission entière pour parler juste de ça. C'est des questions très 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 complexes, et il y aurait beaucoup à dire. Mais juste faire remarquer qu'avec tout ce immense appareil de la justice dite internationale, la CPI, enfin toute cette usine à gaz qu'on a mis en place depuis 2002 pour juger les coupables des pires crimes, les pires atrocités, et que pour tout le cas ougandais, on se retrouve en bout de compte avec un sous-commandant qui était un enfant enlevé, c'est pas tout à fait en adéquation avec le phénomène. Il n'y a aucun des vrais responsables qui est jugé. Bon, évidemment, Conny, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Trois autres qui ont été inculpés sont morts, donc on n'a pas pu les juger non plus. Mais par exemple, il y a des très hauts commandants de la LRA, fondateurs du groupe, qui ont participé à la définition de la politique d'enlèvement, pas seulement qui ont fait les enlèvements, mais qui ont créé cette politique, avec Conny, qui sont amnistiés et qu'on voit dans les rues à Goulou tous les jours, comme Sam Colo ou Kenneth Bagna. Kenneth Bagna était pilote de chasse, militaire haut gradé, donc lui c'est un des fondateurs du groupe, quoi. Et bon, bah, il n'était pas récupéré par la CPI parce qu'il s'est rendu plus tôt, parce qu'il a eu de la chance, parce que... Voilà. Donc il y a une part d'arbitraire dans le fait que ce soit Nguyen qui se retrouve à répondre de toutes ces questions à la haie et personne d'autre, dont je pense Nguyen lui-même est très conscient et ça lui fait évidemment pas du tout plaisir. Après, la procureure, elle a évidemment, est dans son rôle quand elle dit « Nous, on juge des gens pour ce qu'ils ont fait, le type a été inculpé, voilà les charges, on pense qu'il a fait ce que, dont, pourquoi il est inculpé. » Mais
et on se fiche de savoir qu'il a été embrigadé enfant et qu'elle a
on
été...
On se fiche de ça et aussi on se fiche de savoir s'il y a 40 autres types qui ont fait la même chose qui sont pas devant nous. Parce qu'en gros, c'est pas mon problème. Mais c'est là que je suis pas tout à fait d'accord parce que une partie du mandat de la CPI, c'est de contribuer à ramener la paix et via la justice dans les pays affectés. Et si un procès est perçu comme pas juste, ça n'aide pas. Et dans le nord de l'Ouganda, quasiment... Tout le monde, sauf peut-être des gens de certains villages où Nguyen a commis des massacres, et du côté d'Nguyen, et pense que c'est complètement injuste que ce pauvre gamin se retrouve là-haut, devant les juges en Hollande, alors que tous les autres se battent dans la rue.
Ce que
ils
vous
sont ni pires, ni moins pires, ni quoi que ce soit que lui.
Ce que vous laissez entendre rapidement, en effet, des jeunes gens devant un écran de télévision dire il va le gagner son procès et clairement être du côté de cet homme-là. Mais parce
eux, en plus, c'est des anciens camarades. Moi, je parle même de gens qui n'étaient pas dans la région. Je parle de la population civile du nord de l'Ouganda. Les procès sont diffusés là-bas. Les gens les regardent. Ils ont mis des grands écrans dans les lieux publics pour que les gens puissent suivre les débats. Donc il y a beaucoup de pédagogie qui est faite. Les gens, franchement, ne comprennent pas.
Sans évincer absolument les crimes peut-être certainement commis par cet homme, lorsque vous filmez son corps, on parlait du corps tout à l'heure, son regard, sa prise de parole, est-ce que c'est un effet de tous ces témoignages qu'on a entendus avant dans votre film ou est-ce que c'est simplement sa présence qui fait qu'on voit l'enfant ? On voit l'enfant embrigadé dans cet homme qui s'apprête à partir.
Il est vraiment comme ça, il est très très... Enfin, quand il n'est pas en colère, il est très très doux.
Mais sans parler de douceur, on voit l'enfant, c'est-à-dire qu'on voit la vie qui s'est arrêtée aussi et qui a été prise par la violence.
Tout à fait possible, il a une voix en fait assez enfantine, ça j'ai remarqué chez plusieurs d'entre eux. Lui, il a été pris très jeune, lui-même ne sait pas exactement, mais entre 10 et 12... donc il a vraiment, vraiment passé. Et puis il est passé longtemps. Jeffrey a passé 3 ans dans la Larrée. Nguyen, il a passé 27 ans. Donc
sa vie n'a été que violence, quasiment.
Ah oui. Et il a commis, effectivement, des massacres épouvantables. Quand j'étais dans la jungle avec les militaires en 2011, c'est lui et ses types qu'on traquait. C'était parce que c'est sa zone d'opération. Et les mecs me racontaient les villages pleins de cadavres qu'ils trouvaient de temps en temps. Enfin, toutes les atrocités d'Nguyen. C'était vraiment trash, quoi. Mais néanmoins, oui, voilà, vous avez raison. Après, qu'est-ce qu'on peut dire, je sais pas, mais c'est comme
oui, c'est ça reste, ça semble complètement rester irrésolu dans votre tête, bah, y compris dans le film.
Bah, puisqu'il n'y a pas de résolution, il n'y en a pas. Il n'y a que de la, finalement, il n'y a que de l'arbitraire, donc, voilà. Ça aurait été mieux pour tout le monde si c'était Connie qui était là-haut à la haie plutôt que Nguyen, mais vu que ça n'a pas été possible, bah, on fait avec.
Et Connie court toujours.
Connie court toujours. Il est au Darfour, il trafique de l'ivoire, il tue des éléphants pour vendre leur ivoire aux Chinois. Et on n'arrive pas à l'attraper. Et maintenant, on n'essaie même plus, parce que les Ougandais et les Américains se sont retirés.
Un
Et on termine avec cet extrait de votre film, Jonathan Little, et l'évocation de cette figure, Evelyn, qui n'a pas exactement la même façon de prendre la parole. Alors évidemment, on pourrait dire que chacun d'entre eux et d'entre elles prennent la parole de manière différente. Mais je trouve qu'elle a une place particulière dans Wrong Elements.
Bah, Evelyn, c'est la figure d'une personne qui est traumatisée. Beaucoup plus que les autres. C'est quelqu'un qui est hanté parce que j'en parlais tout à l'heure par le Chen, donc qui est affligé par les esprits, qui ne dort pas, qui a des hallucinations, qui souffre tous les symptômes de ce que nous on appellerait du PTSD, mais que eux appellent une affliction par le Chen, et qui s'engage dans le film dans un processus de guérison traditionnel, qui passe par une cérémonie religieuse, un sacrifice, avec toute la communauté qui se met autour d'elle pour aider à sa guérison, en mangeant collectivement la chef, notamment. Mais donc oui, c'est quelqu'un de beaucoup plus fragile et de beaucoup plus vulnérable que les autres, qui ont quand même mieux refait leur vie, on va dire.
Et la filmer, c'est dire qu'en effet, tout à l'heure, on disait rien n'est résolu du point de vue de la justice, évidemment, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit plus locale. Il me semble que la filmer, elle, et entendre sa voix, c'est dire que rien n'est résolu aussi à l'échelle des êtres, et peut-être encore moins résolu à l'échelle des êtres.
Ah oui, tout à fait. Mais c'est un peu le cas partout, je dirais.
C'est ça que propose de penser Wrong Elements, c'est que c'est un peu le cas partout, justement, cette sorte de métaphore de la violence.
Vous savez, moi, ma démarche, c'est pas de donner des conclusions, quoi. C'est d'essayer de décortiquer des faits pour aller le plus loin possible avec la matière qui est proposée, et d'ensuite mettre sur la table ce que j'ai pu trouver. Mais après, je pense que c'est vraiment à chacun de tirer ses propres conclusions. J'essaie de faire des livres, des films qui sont ouverts pour que les gens réfléchissent dessus. Mais c'est pas à moi de dicter ce que vous devez en penser.
Non, c'est pas ce qu'on vous demandait.
J'espère pas.
Le DVD Wrong Elements augmenté de documents et de livres est en effet disponible dès maintenant, mais sera plus disponible encore à partir du 6 février. Pour l'instant, on peut le trouver sur la plateforme Blackout. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec les deux musiciennes Sarah Murcia et Camilla Joubran. L'émission a été préparée par Jeanne Aléos, Corinne Amar, Laure Chastan. Au son ce soir, c'était Pierre Monteil. Et à la réalisation, Lise-Marie Barré. Quant à moi, je réponds @MarieRicheux tout attaché sur Twitter.